Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous emmène aujourd'hui aux confins du système solaire vers la planète Uranus. Cette planète reste encore une des grandes inconnues de notre système solaire. Elle a été découverte tardivement par William Herschel et depuis, force est de constater qu'elle recèle encore bien des mystères. Comme par exemple son axe de rotation qui est parallèle à son orbite. En fait, on a l'impression que Uranus roule sur son orbite. Ou encore le champ magnétique de la planète, qui est très mal connu et qui semble variable. Revenons à l'histoire de la découverte d'Uranus que j'aime beaucoup raconter. Contrairement aux autres planètes ayant des orbites plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne, Uranus n'a pas été découverte pendant l'Antiquité. Du fait de son éloignement du Soleil, elle est observée à de nombreuses occasions, mais est considérée comme une simple étoile jusqu'au XVIIIe siècle, en raison de son très faible éclat, sa magnitude apparente étant à la limite de la visibilité à l'œil nu. Moi, j'ai jamais réussi à la voir à l'œil nu. Il faut un grossissement d'au moins une centaine de fois pour se rendre compte que Uranus n'est pas ponctuel, mais est bien une planète. La première observation connue pourrait être celle d'Hipparque, en 128 avant Jésus-Christ. Il aurait pu l'enregistrer comme une étoile fixe dans son catalogue d'étoiles. En effet, un astérisme cité dans l'Almageste de Claude Ptolémée, qui reprend les travaux d'Hipparque, ne peut pas être résolu que par la présence d'Uranus à cette époque. Par ailleurs, Uranus, en avril de l'année 128 avant Jésus-Christ, était dans des conditions d'observation très favorables. Elle était proche de son périhélie, c'est-à-dire proche de la Terre, avec une magnitude de 5,4. Elle était à 33 degrés du zénith, bref, visible à l'œil nu dans ces conditions. La plus ancienne mention prouvée date de 1690, lorsque John Flamsteed l'observe au moins 6 fois et la catalogue en tant qu'étoile, sous le nom 34 Tauri. L'astronome français Pierre-Charles Lemonnier observe Uranus au moins 12 fois entre 1750 et 1769, dont 4 nuits consécutives. John Bevis a peut-être également observé Uranus en 1738. Des indices concordants avec une observation, mais nous n'avons pas de preuves définitives. Tous ces astronomes ne réalisent pas ce qu'ils regardent. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle et William Herschel. William Herschel, c'est un musicien anglais qui pratique l'astronomie en amateur. Il n'a pas les moyens financiers d'acheter un télescope, alors il polie lui-même un miroir pour construire le sien. Il découvre la planète le 13 mars 1781 lors d'une recherche systématique d'étoiles à l'aide de son télescope qu'il effectue avec sa sœur Caroline depuis le jardin de sa maison, au 19 New King Street à Bath, dans le Somerset en Angleterre. Cette maison est depuis devenue un musée d'astronomie, le musée Herschel. Plus précisément, William Herschel avait entrepris un catalogage d'étoiles selon leur magnitude. À la frontière de la constellation des Gémeaux et du Taureau, Herschel remarque au milieu des étoiles fixes une petite tache. Il change alors successivement d'oculaire, augmentant le grossissement, et ça fait augmenter la taille de l'objet, à chaque fois. Tandis que les étoiles autour, elles, qui sont très éloignées, ne changent pas de taille et restent de simples points. Alors il en déduit qu'il ne peut s'agir d'une étoile. Et il écrit donc dans son journal, le 13 mars, « Dans le quartile près de Zeta Tauri, se trouve un objet curieux, soit une nébuleuse, peut-être une comète. » Il note sa position, et puis quelques jours après, il reprend son observation. J'ai observé la comète, ou la nébuleuse, et trouvé qu'il s'agissait bien d'une comète car elle avait changé de place. Il décide alors de prévenir la communauté scientifique de sa découverte et envoie un courrier avec les détails de l'observation de la comète au directeur de l'observatoire d'Oxford, Thomas Hornsby. Il informe également l'astronomeur royal Neville Maskelyne de l'observatoire de Greenwich. Il reçoit une réponse déconcertée de sa part le 23 avril 1781. Je ne sais pas comment l'appeler. Il est aussi probable que ce soit une planète régulière se déplaçant sur une orbite presque circulaire par rapport au Soleil. Il peut aussi s'agir d'une comète se déplaçant sur une ellipse très excentrique. Je n'ai pas encore vu de chevelure ni de queue. Celui-ci ne pouvant trancher, il diffuse la nouvelle à d'autres scientifiques et conseille à Herschel d'écrire à la Royal Society. Le 26 avril 1781, lorsque William Herschel présente sa découverte à la Royal Society, il continue d'affirmer qu'il a trouvé une comète, mais il la compare implicitement à une planète. Bien que William Herschel continue par précaution d'appeler ce nouvel objet comète, d'autres astronomes commencent déjà à soupçonner sa vraie nature. L'astronome suédois Anders Lexell, qui travaille en Russie, est le premier à calculer l'orbite du nouvel objet en appliquant le modèle d'une planète. Son orbite presque circulaire, correspondant au modèle appliqué, l'amène à conclure qu'il s'agit bien d'une planète plutôt que d'une comète, car il estime sa distance égale à 18 fois la distance Terre-Soleil et qu'aucune comète ayant un périhélie supérieur à 4 fois la distance du Soleil n'avait alors jamais été observée. L'astronome berlinois Johann Bode décrit la découverte d'Herschel comme, je cite, « une étoile en mouvement qui peut être considérée comme un objet semblable à une planète, inconnue jusqu'à présent, circulant au-delà de l'orbite de Saturne ». Bode conclut également que son orbite quasi-circulaire ressemble plus à celle d'une planète que d'une comète. L'astronome français Charles Messier remarque aussi qu'avec son aspect de disque, elle ressemble plus à Jupiter qu'aux 18 autres comètes qu'il avait observées auparavant. L'objet est ainsi unanimement accepté en tant que planète. En 1783, Herschel lui-même reconnaît auprès du président de la Royal Society, Joseph Banks, « D'après l'observation des astronomes les plus éminents d'Europe, il semble que la nouvelle étoile que j'ai eu l'honneur de signaler en mars 1781 est une planète primaire de notre système solaire. » Le roi d'Angleterre George III récompense Herschel de sa découverte en lui attribuant une rente annuelle de 200 livres, soit l'équivalent de 24 000 livres en 2023, à condition qu'il s'installe à Windsor afin que la famille royale puisse regarder à travers ses télescopes. Cette pension permet à Herschel d'arrêter son travail de musicien et de se consacrer pleinement à sa passion pour l'astronomie. Sa sœur Caroline, elle aussi, reçoit sa part de 50 livres, devenant ainsi la première femme rétribuée pour un travail scientifique. Depuis la découverte d'Herschel, les observations d'Uranus ont été faites principalement au télescope, mais également grâce à la sonde Voyager 2 qui a survolé la planète Uranus en 1988. Grâce à cette sonde, qui depuis est sortie du système solaire, nous avons pu avoir des informations sur le champ magnétique de l'astre, sur 11 nouvelles lunes et 2 nouveaux anneaux. Depuis, aucune visite n'a eu lieu dans cette banlieue du système solaire. Le VLT, le Very Large Telescope, qui est situé dans l'Observatoire européen austral au Chili, est l'équipement phare de l'astronomie européenne en ce début de troisième millénaire. Il s'agit de l'installation observant dans le visible le plus moderne du monde. Le VLT se compose de 4 télescopes principaux, ayant des miroirs primaires de plus de 8 mètres, et 4 télescopes auxiliaires mobiles de 1,8 mètres. Tous ces télescopes peuvent fonctionner ensemble pour former un interféromètre géant, le VLTI, permettant aux astronomes de discerner des détails avec une précision jusqu'à 25 fois plus importante qu'avec ces télescopes utilisés séparément. Le VLT a permis de résoudre Uranus, d'observer des nuages et des vents. Le James Webb Télescope, quant à lui, est un télescope spatial et il permet d'observer Uranus dans l'infrarouge, ce qui va permettre de connaître pour la première fois, depuis la visite de voyageurs, la température de la planète. Et puis, grande nouvelle, un nouveau voyage se profile vers Uranus à l'horizon 2030. La NASA pourrait envoyer un orbiteur associé à une sonde de rentrée atmosphérique. Le Uranus Orbiter and Probe est un programme qui rassemble des scientifiques de tout pays. En effet, la sonde de rentrée atmosphérique portera des instruments de mesure français, par exemple. Le but, c'est d'observer et de mesurer toute la planète, aussi bien son atmosphère que sa relation avec le Soleil. Pour cela, la sonde va embarquer plusieurs instruments, spectroscope, magnétomètre, thermomètre. Le voyage durera 13 ans, auquel il faut ajouter 20 ans de préparation pour une sonde kamikaze qui restera 6 minutes dans l'atmosphère d'Uranus avant d'être écrasée par l'énorme pression. C'est ce qu'on appelle une mission cathédrale, c'est-à-dire que ceux qui ont jeté les bases de ce programme ne seront pas ceux qui pourront traiter les données recueillies. D'ailleurs, ceux-là ne sont pas encore nés. Comme au temps des cathédrales, ceux qui posent les fondations ne verront pas l'édifice terminé. Dans cette mission, la distance est évidemment un paramètre très important. Uranus est en effet à 19 unités astronomiques du Soleil. Pour mémoire, l'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Depuis Uranus, le Soleil est donc à peu près équivalent à une grosse étoile. Pour parcourir ce trajet, il faudra déjà propulser un module de 5 tonnes pour l'arracher à l'attraction terrestre, et ensuite utiliser d'autres planètes, Jupiter ou Vénus, pour utiliser l'assistance gravitationnelle ou la fronde gravitationnelle. En passant près d'une autre planète, sa gravité va modifier en direction et en vitesse la trajectoire de l'engin spatial dans l'espace pour l'aider dans son voyage. Les scientifiques espèrent que cette mission les aidera à percer les mystères d'Uranus, et notamment son obliquité. Alors que toutes les autres planètes du système solaire ont un axe de rotation qui est proche de la perpendiculaire à leur orbite, Uranus, elle, roule sur son orbite. On parle d'obliquité pour désigner l'angle que fait l'axe de rotation avec la perpendiculaire à l'orbite. Pour Jupiter et Mercure, cet angle est presque nul. Pour la Terre, Mars, Saturne et Neptune, il est autour d'une vingtaine de degrés. Alors il y a le cas particulier de Vénus qui tourne dans l'autre sens par rapport aux autres planètes, ce qui pourrait lui donner une obliquité de presque 180 degrés. Uranus, elle, a une obliquité de 98 degrés. On a parfois tenté d'expliquer cette anomalie par un phénomène cataclysmique, en l'occurrence une collision avec une protoplanète au début de la formation du système solaire qui aurait pu faire basculer Uranus. Mais cette théorie ne s'accorde pas avec la présence actuelle de nombreux satellites orbitant dans le plan équatorial de la planète. Si la planète avait basculé de cette manière, les satellites n'auraient pas suivi. Il faut donc envisager un basculement progressif de l'ensemble du système d'Uranus. Une hypothèse que viennent de proposer deux astronomes de l'Observatoire de Paris. En effectuant des milliers de simulations numériques de la migration des planètes géantes lors de leur formation, et en ajoutant un nouveau satellite au voisinage d'Uranus, ils ont démontré que ce corps aurait pu accélérer le mouvement de précession qu'effectue l'axe de rotation de la planète, au point de lui conférer une vitesse comparable à la précession de son orbite, entraînant alors un basculement de l'ensemble du système. Mais Uranus n'a pas de gros satellites, elle a 27 petits satellites, dont les noms d'ailleurs sont tous des personnages d'œuvres de Shakespeare, comme Titiana, Oberon, Ariel. Mais ce gros satellite, où est-il? Est-ce qu'il est parti? Ou alors est-ce qu'il a été capturé par une autre planète? Est-ce qu'éventuellement il aurait pu être éjecté? Une autre solution est proposée. Sur Saturne, on a constaté que les satellites migrent, ils s'éloignent de la planète, en raison de l'élargissement des orbites. Et cela attire l'axe de Saturne et le fait basculer, mais sur des milliards d'années. C'est ce qui aurait pu aussi arriver sur Uranus. Il aurait pu avoir des satellites proches qui, en élargissant leur orbite, accélèrent la rotation de la planète et arrivent à la résonance au point que l'axe bascule. L'orbite alors se déforme et le satellite peut entrer en collision avec sa planète. Bon, pour que ça tienne, il faudrait au minimum 4 fois la masse des satellites actuels. Plus probablement un très gros satellite de la taille de Ganymède. Uranus révèle encore bien des mystères, comme par exemple son champ magnétique, qui est instable, dynamique. Espérons que la sonde de rentrée atmosphérique qui va partir vers Uranus nous permettra d'expliciter ces mystères.